19h-20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Beurre FM Time Sport en ce mercredi 3 juin. Et oui, restez bien à l'écoute de Beurre FM en cette journée ensoleillée à la maison ou même en voiture, mais aussi au travail pour d'autres. Beurre FM vous accompagne tout au long de cette magnifique soirée. Ce soir au menu de cette émission, le tour des Français avec la fameuse Bundesliga. Ce championnat allemand, Pavard, plus que jamais installé, un concours décisif, les duos Pléa et Thuram, direction peut-être l'équipe de France. On accueillera Thomas Desson, journaliste sportif passé par Fox Sport World, Bein Sport France et RMC Sport, mais aussi le Barça qui veut rejouer devant les supporters. Ses supporters, Karl Toko et Kambi, signent pour 4 ans avec l'Olympique Lyonnais, pendant que Aouar, Dembélé et Depay s'interrogent sur leur avenir avec l'Olympique Lyonnais, sans oublier la reprise du championnat nord-américain de basketball. Et oui, bien évidemment, la NBA. C'est parti, go go Time Sport.
Time Sport.
Et ce soir avec moi, pour m'accompagner dans cette émission, on aura Meshad, le grand retour. Meshad, comment ça va?
Ça va et toi?
Ça va très très bien.
Un grand plaisir d'être là.
Et nous aussi, Meshad, de te recevoir. Tu vois, on parlera bien sûr de l'Olympique Lyonnais. Aïe, 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 aïe. Juan José Dorado est avec nous. Comment ça va?
Hola, buenas tardes a todos. Bah, très bien, avec envie de reprendre les émissions. Parce que moi, effectivement, ça fait quand même déjà quelques mois qu'on n'était pas à l'antenne. Alors, revenir en studio, ça fait plaisir de retrouver les auditeurs. Ça fait vraiment plaisir.
Ah bon, on attaque cette émission avec le championnat d'Allemagne.
Time Sport, le ras-le-bol.
Le championnat d'Allemagne qui a repris ses droits samedi dernier. Plusieurs joueurs français ont signé de fameuses performances remarquées de Benjamin Pavard, on le rappelle, à Pléa, en passant par le tant attendu Marcus Thuram. Et oui, nombre de buts qui ont fait quand même fureur sur les réseaux sociaux. Que dire de nos jeunes Français, Meshad?
Que cette année, c'est quand même une belle réussite pour les Français en Bundesliga.
Ouais.
Finalement, le plus grand échec, ce sont les Français qui sont au Bayern. Quand tu vois que Lucas Hernandez avait été acheté 80 millions d'euros et qu'il enchaîne les blessures, Tolisso qui n'est pas titulaire indiscutable, Pavard effectivement qui lui est titulaire et qui est une grande surprise parce qu'à la base il devait faire partie du turnover de l'équipe et finalement il s'est imposé comme un titulaire indiscutable.
Ouais.
Coman aussi qui enchaîne les blessures. Sinon effectivement tu as des Marcus Thuram qui a 15 buts là je pense aujourd'hui si je dis pas de bêtises en Bundesliga, Pléa qui a 10 buts et qui forme un beau duo avec Marcus Thuram, ou Upamecano à Leipzig qui est très très bon et qui est très très fort. D'ailleurs je pense,
on l'oublie parfois,
il se dit qu'il va partir très probablement à la fin du mercato pour un grand club comme Chelsea ou Lyon pour mais en tous les cas c'est vrai que c'est une belle réussite cette année pour les Français en Bundesliga et la reprise confirme la bonne forme de nos Français là-bas.
Le 01 53 48 3000 pour réagir avec vos consultants, je le rappelle, Meshad et Juan José Dorado. Un petit clin d'œil à Kamel qui nous écoute. Un peu d'accord avec Meshad sur cette première réaction. Juan José, alors c'est français.
Oui, c'est français et il nous surprend, mais effectivement, tu l'as dit, mais pas tous, parce que les cadres français, ils sont plutôt mal en point. Tu as cité effectivement Lucas Hernandez qui enchaîne des blessures depuis qu'il a quitté l'Atlético de Madrid, même s'il était déjà pratiquement blessé.
Ouais.
Il a quitté l'Atlético de Madrid. Effectivement, Tolisso, on attendait peut-être plus de lui. Effectivement, il n'a pas sa place en première équipe de façon permanente. Et Coman, tu en as fait déjà référence. Mais c'est vrai que ceux qui surprennent, c'est les joueurs de Mönchengladbach avec Alassane Pléa et Marcus Thuram qui ont fait quand même un joli carton ce week-end dernier, surtout à Mönchengladbach qui est quand même troisième
face à l'Union Berlin.
Voilà,
c'est ça.
À Mönchengladbach qui est troisième de la Bundesliga, donc ils sont vraiment en forme. Et deux attaquants français qui effectivement peut-être commencent à frapper à la porte de l'équipe de France. N'oublions pas
que
ce n'est pas le point le plus fort de l'équipe de France, notamment
pas faux, tu l'avais dit
dernièrement, attaque avec un Griezmann qui n'est pas en réussite totale du côté de Barcelone.
Il restera Griezmann.
Ça fait plaisir de retrouver des gens qu'on n'attendait peut-être pas en début de saison et voilà, ils reprennent le flambeau des joueurs français. Mais surtout, ce qui me fait mal, moi, c'est Lucas Hernandez.
Et pourquoi donc?
Transfert à 80 millions.
Vraiment, les Allemands, ils dépensent aussi.
Vraiment, il avait réussi le mondial, il était bien à l'Atlético de Madrid. Là, c'était vraiment l'opportunité de réussir au premier plan, mais vraiment au premier plan, et ben voilà, qu'il enchaîne les blessures. Et ça, par contre, c'est vraiment, vraiment dommage parce que c'est une année vraiment gâchée pour ce joueur.
Faut rappeler quand même.
Alors, Meshad.
Hernandez, quand il vient au Bayern, il a le statut d'être l'un, si ce n'est le meilleur latéral gauche à son poste. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il s'est fait doubler par Alaba, qui a été remis dans l'axe par son entraîneur. Donc ça veut dire qu'à la base, il est latéral gauche, il joue défenseur central. Et Anthony Davis, qui a 19 ans, qui a pris la place de latéral gauche. Et c'est vrai que ça a complètement mis Hernandez sur le côté. Alors il a affirmé qu'il voulait rester pour s'imposer au Bayern. Mais c'est vrai qu'au vu de son salaire, de son transfert, il va falloir qu'il mette les bouchées doubles pour pouvoir s'imposer. Parce qu'encore une fois, il s'est fait prendre la place par beaucoup de joueurs en défense.
Intransférable pour le Milan AC. Hernandez, Théo, et même le Paris Saint-Germain serait sur lui. Ça fera plaisir à notre réalisateur.
Il y a quand même un autre joueur qu'on n'a pas cité, c'est Nkunku qui est
l'ancien
Ligue,
Parisien,
qui effectivement.
Et tous les joueurs de l'équipe.
Voilà,
Yannis avait son maillot.
Un attaquant qui s'est fait voir, qui montre, qui a, je crois qu'il a marqué encore ce week-end dernier. Donc,
il était décisif.
Effectivement, c'est des joueurs qui montrent la voie. Aux cadres qui n'ont pas réussi cette année. Donc, c'est belle fournée des joueurs français en Bundesliga. En plus, il y a la visibilité, c'est les premiers à revenir parmi les grands championnats. Et donc, effectivement, on se fait plaisir avec
eux. Ils ne sont pas arrêtés de travailler, de s'entraîner, hein, les Allemands, contrairement à d'autres championnats. Hein, Meshad, depuis mars même, hein, ils ont toujours été au rendez-vous, hein, les gars.
Il n'a jamais été question de mettre un terme à la Bundesliga, et même pendant le confinement, ce qui n'était pas le cas de la Ligue 1, par exemple. Et donc, c'est vrai qu'ils sont préparés en conséquence. Ils ont une préparation en conséquence.
Ouais.
Et donc, ils sont revenus d'ailleurs les premiers. Donc, effectivement, ça fait que les joueurs français, mais pas que français, hein, tous les joueurs de la Bundesliga sont physiquement prêts. Et ça a donné des matchs de haute qualité d'ailleurs depuis la reprise pour des joueurs qui n'ont pas joué depuis supposément 2 mois.
Il a composé le 01 53 48 3000. C'est Abdel qui nous appelle depuis Valenciennes. Bonsoir Abdel. Alors, Abdel, il nous entend. Hop, oh, peut-être un petit problème. Bonsoir. Ouais, il a raccroché, ça ne fait rien. Bon, eh ben, on va enchaîner justement avec les consultants. Je vous rappelle le numéro du standard, le 01 53 48 3000. Juan Trossé, tu as si bien dit concernant ces jeunes joueurs qui tapent en quelque sorte à la porte de cette fameuse équipe de France et des hommes de Didier Deschamps, surtout où il y a certains joueurs avec des lacunes, et il faudra aussi persévérer pour y arriver, notamment avec cet euro reporté. Ouais, non, reporté, c'est vrai, tu souris, mais voilà quoi, il faudra faire le nécessaire.
Et ça, c'est l'importance, parce que moi, je suis de ceux qui défendaient que depuis un certain temps, depuis la fin du mondial, que l'équipe de France et Didier Deschamps devaient commencer à proposer d'autres noms des joueurs, ramener dans l'équipe de France des joueurs pour le préparer justement à avoir cette expérience nécessaire pour les grandes compétitions internationales en équipe de France. Et le fait d'avoir retardé d'un an cette Coupe d'Europe montre à quel point, effectivement, pour certains cadres, ça va être peut-être compliqué, ça va être peut-être l'année des trop, parce qu'ils vont pas arriver tellement bien à l'été 2021 pour jouer cette Coupe d'Europe des Nations. Mais juste quelque chose par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure sur effectivement l'entraînement.
Ouais,
c'est vrai, Richard, que la plupart, ou pratiquement tous les championnats, les grands championnats, avait en tête la reprise. Ah, effectivement, il n'y a que les championnats français pratiquement qui, depuis le début,
pensaient, ça posera problème.
Il y avait même des joueurs qui disaient qu'il ne faut pas reprendre.
Pour l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain, pour la Champions League. Eh oui, Yannis, hier, on en a débattu avec le coach Tollet. Meshad.
C'est une vraie donne. Et, alors, on en a parlé lors des lives Instagram qu'on a fait durant le.
C'est ça. Ouais.
C'est vrai que je pense, enfin, c'est même une conviction, l'arrêt de la Ligue 1, c'est une des pires décisions qui aurait pu être prise par la LFP et par le gouvernement, parce qu'effectivement, ça va avoir des grosses conséquences sur l'indice UEFA les années prochaines. Et on parle pas juste de l'année prochaine, moi je parle des années prochaines.
Oui. C'est l'indice UEFA, c'est les conséquences économiques, avec plusieurs centaines de millions de manques à gagner, des clubs en déficit et en très mauvaise situation financière, des joueurs, je lisais ce matin à l'interview de Jaime Roures des Mediapro, qui disait que pour lui, l'une des inquiétudes, c'est tous les joueurs, tous les transferts qui vont avoir lieu.
On en a parlé en plus hier.
Saison, effectivement,
ça poserait problème.
Et ça pose le problème d'avoir décidé d'arrêter. Alors, tu parles de la Ligue, effectivement.
Vous évaluez peut-être certains joueurs.
Cette décision a été surtout la décision du gouvernement,
qui
l'a prise sans concertation. Et maintenant, le football français va payer les pots cassés.
Vous restez avec nous. On va prendre Abdel de Valenciennes, sans oublier notre invité. On le rappelle, ce soir, Thomas Desson, journaliste. Journaliste sportif passé par Fox Sports World, Bein Sports France et aussi nos confrères d'RMC Sport. Bonsoir Abdel.
Bonsoir tout le monde.
Ça va Abdel?
Ça va bien, merci.
Bon, on vous écoute Abdel.
Bah, c'était pour intervenir à propos des joueurs français qui jouaient au Bayern et pas que, hein, même au Real Madrid, alors que c'est des joueurs de qualité, mais qu'on voit qu'ils ont du mal à s'imposer. Et c'est là qu'on voit la performance qu'a eu un joueur comme Ribéry au Bayern de Munich autant d'années.
Ouais.
C'est là qu'on voit que même Karim Benzema au Real Madrid, pourtant c'est des clubs où il est difficile de s'imposer. Et c'est là qu'on voit que c'est des joueurs monstres pour avoir fait ce qu'ils font dans ces clubs-là. C'est vraiment pas facile, surtout en Allemagne. Et qu'on voit un joueur comme Tolisso, alors qu'on sait que c'est un joueur confirmé et qui a quand même du mal. Hernandez, c'est des joueurs, et c'est là qu'on voit que...
Et justement, Abdel, ce côté compliqué du championnat allemand, comment l'expliquer?
À mon avis, c'est parce que, en fait, le niveau, il est élevé, et, en fait, c'est comme dans le championnat anglais, en fait, le dernier peut jouer contre le premier, et au niveau du jeu, si on ne dit pas classement du dernier, on ne saurait pas le dire. Parce que les équipes, là-bas, ça joue au football, ça joue pour gagner, ça joue de l'avant, ça joue pas fermé.
On a une réaction, Abdel, avec Meshad, notre consultant.
Moi, je trouve qu'il est surtout important de dire que, je trouve que la Bundesliga, c'est un bon intermédiaire entre la Ligue 1, puis ensuite les gros championnats comme le championnat anglais, le championnat espagnol notamment, parce que c'est très formateur. Et comme le championnat allemand, effectivement, joue très vite vers l'avant, en 2-3 touches, comme on peut le voir aussi chez Klopp, notamment. D'ailleurs, il vient de Dortmund. Et bien, effectivement, c'est vrai que ça correspond aux qualités de nos joueurs français, notamment cette année. Quand tu as des Marcus Thuram qui courent très vite vers l'avant et qui sont capables de faire les différences en un contre un, des Alassane Plea, etc., c'est vrai que ça bénéficie aux joueurs français et ça leur permet d'avoir aussi une mentalité. Parce que la Bundesliga aussi, c'est une vraie mentalité, ne jamais rien lâcher jusqu'au dernier moment pour pouvoir ensuite attaquer des grands clubs. Après, il a cité Franck Ribéry qui a évidemment une des plus belles carrières du football français. C'est vrai que se maintenir à ce niveau-là aussi longtemps dans un club comme le Bayern Munich, c'est évidemment signe d'un grand professionnalisme et de grande qualité.
Et puis quand même, c'est des clubs qui sont très structurés.
Bien
en
sûr.
Interne, c'est des clubs très structurés, très sérieux dans la façon dans leur façon de travailler. C'est des clubs qui n'achètent pas pour acheter, si je peux le dire comme ça. On fait pas d'essais. Souvent on va à coup sûr. Surtout, on prête aussi beaucoup d'attention aux jeunes joueurs allemands. Donc, effectivement, c'est des clubs structurés et ça justifie. Alors, tu disais, c'est peut-être un pas intermédiaire entre la Ligue et les autres championnats, mais je crois qu'aujourd'hui, la Bundesliga, c'est certainement l'un des meilleurs championnats qu'il y a en Europe. J'étais convaincu avant que cette pandémie arrive et qu'il arrête tout, que la grande équipe de cette année, c'était le Bayern de Munich. Ouais. Donc effectivement, c'est un très beau championnat qui a eu l'œil pour les joueurs français, la preuve qu'aujourd'hui on en parle encore d'eux. Mais au-delà de ça, ce n'est pas qu'ils sont très beaux, c'est que peut-être d'autres championnats n'ont pas su faire le boulot correctement et à temps.
Et puis c'est aussi une question, juste finirai ça, c'est aussi une question de mentalité. C'est-à-dire que Nkunku, quand il était au Paris Saint-Germain, il y avait des vraies interrogations quant à à son envie d'être professionnel et de jouer au très haut niveau. Et depuis qu'il est en Allemagne, les rumeurs ont disparu. C'est-à-dire que tu as des clubs qui te forment et qui te donnent envie d'être bon au très haut niveau sur toute une saison.
Abdel de Valenciennes, le mot de la fin avec vous, Abdel, rapidement avant la pause.
En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau de la Première Ligue, en fait, ce qui nous fait aimer plus la Première Ligue, c'est que c'est un ensemble, les supporters, c'est incroyable, c'est que ils sont à 2 cm de la pelouse et ça bouge pas, c'est carré au niveau des supporters, au niveau des stades, au niveau de l'ambiance. C'est ça qui fait que la Première Ligue, on montre plus la Première Ligue que la Bundesliga, alors que la Bundesliga, elle a rien à leur envier, que ce soit au niveau des stades ou quand on voit le mur jaune à Dortmund, ça fait rêver. Ça fait rêver le football. Et franchement, j'aimerais bien qu'un jour en France, on a, on est des supporters comme ça, des vraiment des vrais supporters, qu'il n'y a pas de dérive comme on entend souvent malheureusement.
Il y aura Lens cet été.
Ouais. Lens. Ah, c'est vrai, le stade Bollard, c'est un stade mythique, c'est vrai. C'est vrai.
Vous irez, Abdel. En tout cas, merci.
Je suis un supporter marseillais, mais j'habite
à supporter marseillais, c'est pas. Ah ouais, ça c'est pas bon, hein. Je plaisante.
Non, je plaisante.
Ici, Abdel, en tout cas, un grand merci pour cet appel, d'avoir c'est composé le 01 53 48 3000 et d'écouter Beurre FM. Vraiment merci.
Merci.
On poursuit cette émission avec notre invité du soir, Thomas Desson, un grand journaliste sportif.
Time Sport.
Eh oui. Passé par justement nos confrères de Fox Sports World et aussi par juste à côté du côté de Boulogne, nos confrères de beIN Sport France et sans oublier RMC Sport. Et oui, RMC, la chaîne que l'on pourra plus suivre malheureusement. Eh ben, il va nous en dire un mot aussi, Thomas. Bonsoir, Thomas.
Bonsoir à vous, messieurs. Salut.
Comment ça va, Thomas?
Ça va.
Avec ce déconfinement, Thomas.
Exactement, il y a déjà le plaisir quand même, ouais, de remettre le nez dehors. J'ai un petit garçon qui va avoir 4 ans, donc on a bout de terrasse heureusement, mais le confinement pour lui était assez long. Je vous glisse un petit message parce que je trouve ça sympathique. Je suis un petit peu surpris d'être appelé par Beurre FM, mais je suis content qu'il n'y ait pas de communautarisme. J'ai un fils qui est franco-kabyle et je vois que tout le monde intervient dans votre station.
Tout le monde, Thomas, sachez-le, vraiment. Il y a une mixité incroyable au sein de la rédaction et même sur l'antenne de Beurre FM, soyez-en sûrs. On va s'attarder, Thomas, justement, on a parlé rapidement de ce déconfinement, mais aujourd'hui, comme le disait Juan Trossé et si bien Méchad, nos consultants de ce soir, il y a un peu un petit problème qui se pose vis-à-vis des autres championnats européens en matière de football avec cette Ligue 1 Conforama. Vous en pensez quoi, Thomas, vous, aujourd'hui?
Effectivement, mon confinement, il a été insupportable les premiers jours parce que au bout de 5 jours, j'avais l'impression déjà que c'était très long. Et puis, il y a eu une phase personnelle où j'ai fait un peu de sport, ça a été plus zen. Et puis derrière, évidemment, comme beaucoup, quand on est journaliste, on est très curieux et on a envie que ça bouge. Donc il y avait une grosse impatience. À titre personnel, je suis journaliste présentateur sur la Première Ligue avec Flora Moussi et Emmanuel Petit. Je regardais tous les jours en espérant que le Restart Project qui avait été mis en place en Angleterre puisse avoir lieu, même si Boris Johnson a eu un petit souci lui aussi avec un cas de Covid. Je me suis dit ça va peut-être freiner ses ardeurs. Égoïstement, le fait que la Première Ligue reprenne le 17 juin, à titre personnel et par rapport à ma passion, c'est une réjouissance. Est-ce que la France, en prenant cette décision du 30 avril par rapport au 28, a été un petit peu tôt? Oui, sans doute. Est-ce que je vais la critiquer? Non. J'ai un papa retraité qui est chirurgien ORL, vous savez, qui est quand même assez pointu sur la chose. Et début mars, il m'a dit, je ne referai pas mon petit-fils avant 6-8 mois. Tu ne me l'amèneras pas. Il a 72 ans, il m'a dit, je ne reverrai pas mes petits-enfants avant un moment. Alors les choses ont évolué avec le temps.
Bien sûr.
En France, on est très respectueux de la médecine, on fait attention à l'humain. Évidemment, je suis dans un milieu avec ce qu'on appelle les PTV où on fournit des images. Il faut payer un abonnement où il y a évidemment des masses économiques et financières très importantes. Au départ, la France a choisi de préserver l'humain. Donc, de donner mon avis sur est-ce que c'est bon ou pas. C'est toujours plus facile à la fin, j'ai une expression comme ça, mais quand on a vu l'échographie, c'est plus facile de dire si c'est un garçon ou une fille. À ce moment-là, tout le monde était dans un stress énorme. Des gens autour de nous sont tombés et il y a eu effectivement une frénésie un petit peu plus rapide qu'ailleurs. Après coup, il est certain que si là, on avait eu les données qu'on a aujourd'hui, on aurait eu envie de revoir du championnat de France.
Thomas,
en ce moment.
On va se reprendre juste après la première pause. Reste avec nous, avec les auditeurs, et on se retrouvera assez vite.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Time Sport. Avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 19h-20h, toujours en compagnie de Thomas Desson, notre invité ce soir, journaliste sportif. On a été un peu coupé rapidement, Thomas, mais on revient avec vous, allez, pour cette seconde partie de cette magnifique interview, pour revenir sur cet arrêt de cette Ligue 1 Conforama, cette Ligue des Talents. On vous écoute.
Oui, non, je vous disais, c'est plus facile. C'est plus facile après coup de dire on aurait dû faire comme Bundesliga. D'abord, le terrain en Allemagne était propice. De revoir du football, ça fait du bien. Après, on aime être critique en France. J'entends déjà, oui, mais ils nous mettent un faux son d'ambiance. On voudrait être sans, etc., etc. Évidemment, il y a une certaine hypocrisie par rapport à la chose. C'est-à-dire que sur le banc, on voit des hommes avec des masques, et sur le terrain, finalement, au bout de 2-3 journées, on voit un jeu qui n'est pas encore total, mais qui est quand même très attrayant. C'est un bon wagon à prendre pour les autres. Nous, sur RMC, on va reprendre la Première Ligue le 17 juin. Et évidemment, dans un contexte comme il est actuellement, on est tous impatients que les matchs reprennent. Il y a 92 matchs encore à disputer.
Ah oui, tout à fait. On a Achille, notre consultant, qui est tout à fait d'accord avec l'invité de ce soir. Juan José, réaction.
Moi, j'ai juste deux questions à poser à Thomas. Bah, d'un côté, pour revenir sur l'arrêt de la Ligue 1, c'est vrai que c'est très compliqué ou très facile de critiquer maintenant, mais le fait est que il y a les Portugais qui commencent, il y a les Espagnols qui commencent le 11, tu as fait référence aux Anglais, les Allemands qui ont déjà commencé. En fait, on est allé trop vite en France, on est allé trop vite, on a pris une décision trop vite quand on voyait que dans les autres pays, on faisait quand même très attention. On se disait, attention, on va pas aussi vite. Donc, il y a quand même une faute qui a été commise de ce côté-ci de la frontière. Et puis, une deuxième question, par rapport au championnat anglais, justement, comment tu vois cette reprise du championnat anglais après plus de 2 mois d'arrêt? Est-ce que va y avoir beaucoup de changements? On voit comment ça se passe en Allemagne. Est-ce qu'on va reprendre le train de ce qui s'est passé en Angleterre pour cette reprise du 17? Il va y avoir des changements. Comment tu vois cette reprise du côté anglais?
Je te dirais deux choses. Effectivement, avant la pause, la décision en France, elle était prise peut-être 15 jours trop tôt. Maintenant, je ne suis pas expert médical. La courbe, on l'avait anticipée par rapport à un confinement qui, d'après certains, étaient moyenâgeux. On n'avait pas de manière de contrer ce virus autrement que de se confiner. Donc, c'était dans l'état actuel, fin avril, les choses, la solution qui a été préconisée. Certains disent, on ne sait pas comment ça va se passer pour les autres. L'Allemagne avait très peu de cas. Ça se passe à peu près bien. Là, en ce moment, en Angleterre, tous les joueurs sont actuellement soumis à des tests. Il faut savoir aussi que c'est un championnat qui a énormément d'étrangers. Il faut les rapatrier, que pour ne pas être mis en quarantaine, il faut être revenu sur le territoire avant le 8 juin. Donc là, tout le monde est en train de revenir. Est-ce que l'entraînement, la réathlétisation a été faite suffisamment en amont? Le parallèle, effectivement, c'est que quand on renvoie les Sud-Américains qui jouent en Ligue 1 chez eux pour se préparer au championnat 2020-2021, derrière, ça devient une condition impossible pour les faire revenir pour terminer ce championnat. Là, les prochains jours sont critiques. Est-ce que certains joueurs, s'ils sont finalement positifs au virus, vont être sortis des effectifs? La chance qu'a la Première Ligue, c'est que c'est des effectifs pléthoriques. On a des équipes comme Chelsea ou comme Manchester City qui peuvent puiser, s'il le fallait, jusqu'à 50-60 joueurs. Un effectif pro en France, c'est entre 27 et 33 joueurs. Donc, ils ont ce qu'il faut pour pouvoir jouer. Maintenant, on va être sur des cadences absolument folles. Il y a 2 matchs en retard qui vont être disputés le 17 juin. Et puis ensuite, il faut réussir à caler 6 week-ends plus des matchs en milieu de semaine, parce qu'on est parti pour 90 matchs, 90 plus 2 jusqu'au 26 juillet.
Et pas faux. Il est très pertinent, notre invité ce soir. Hein. Meshad, avant de terminer avec lui, avec Thomas Dessant.
Oui, bonjour monsieur. Moi, ce qui me pose surtout problème dans l'arrêt de la Ligue 1, c'est que si elle était justifiée uniquement par le contexte sanitaire, évidemment que c'est la meilleure des décisions à prendre, et on regrette tous ce qui se passe et les pertes que l'on a eues. Le problème, c'est qu'on le sait désormais, c'est que l'arrêt de la Ligue 1 n'est pas dû au fait uniquement du contexte sanitaire, mais aussi c'est aussi une décision politique, avec des présidents de Ligue 1 qui se sont concertés, qui se sont réunis pour appeler le bureau du président et pour demander l'arrêt de la Ligue 1 pour défendre leur intérêt personnel. Et c'est là où ça pose problème, c'est là où ça n'a pas été le cas dans les autres pays. Et en France, plus qu'une décision hâtive, c'est surtout une décision concertée qui a été prise. Moi, c'est ça qui me pose problème dans l'arrêt de la Ligue 1, c'est qu'elle est justifiée évidemment par des normes sanitaires, mais pas que. alors que dans d'autres pays, bah effectivement, on continue le championnat parce que on considère qu'à huis clos ça peut jouer. Et je pense qu'on n'est pas plus bête qu'un autre pays et qu'on est capable de se tenir. Il suffit de voir comment est-ce que les Français se comportent depuis le début du déconfinement pour voir que si on a des règles qui sont précises et claires, on sera capable de les respecter. C'était juste ma remarque.
Thomas Desson, avant de nous quitter, un peu d'actualité. On a aperçu dernièrement, il n'y a pas plus tard qu'hier, que la chaîne a disparu, RMC Sport News. Justement, donnez-nous des news. Donnez-nous aussi où on pourra vous retrouver quand même, mis à part la Liga Primera du côté du Portugal.
Oui, alors, faut savoir que l'agence RMC, c'est plusieurs médias. D'abord, il y a la force de la radio RMC que vous connaissez. On est tous plus ou moins, quand on aime le sport, auditeurs ou consommateurs. Il y a le site web en digital qui est le deuxième en France. Et ensuite, il y a RMC Sport qui diffuse et la Ligue des Champions, pour laquelle il reste un an. La Première Ligue, qui est un droit fort sur lequel il reste deux ans. L'arrêt d'RMC Sport News, c'est l'arrêt de la chaîne News. C'est évidemment un crève-cœur quand des confrères peuvent potentiellement perdre leur emploi. Je dis potentiellement parce que pour l'instant, tout ça n'est pas ancré. Il est vrai qu'il y a un plan de sauvegarde de l'emploi en ce moment. C'est 4 ans d'une aventure et d'un travail en synergie avec l'agence RMC. J'ai évidemment une grosse pensée pour tous les collaborateurs, mais ouais. on est une grosse entité. Et maintenant, il y a d'autres pistes. Il reste la Ligue des Champions encore.
Bien sûr.
Il reste la Première Ligue. Vous l'avez dit, le championnat anglais ouvre aujourd'hui.
C'est ça.
La radio reste forte. Et puis on le voit tous les jours en ce moment dans le monde des médias payants, il y a une nouvelle annonce. Donc je peux pas vous dire ce que les actionnaires de chaque entité.
On le sait bien.
Mais il y a des difficultés chez tout le monde.
En tout cas, toute la rédaction de Beurre FM s'associe à moi pour vous donner de la force et de la solidarité en tant que confrère. Un grand merci. Thomas Desson d'avoir été avec nous pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM. Merci Thomas. On va passer directement à la Liga espagnole.
Time Sport, la victoire.
Eh oui, mes chats, c'est le Barça qui veut rejouer devant ses supporters. Ne serait-il pas dommage de priver plutôt les spectateurs de stade pour cette fin de saison, Juan Trossé, avec une course au titre aussi disputée face au Real Madrid, Zinedine Zidane ou encore Gareth Bale?
Une course au titre, tu l'as dit, effectivement, le Barça, premier de la Liga espagnole, 58 points, juste derrière le Real, 56 points, et beaucoup plus loin, le troisième, Séville, 47.
Mais bon, et Valence, déjà... à quelle place, Valence?
Valence est pour l'instant la septième place, vous savez que je suis de Valence, donc on n'est même pas en Europa League pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas. Donc effectivement, il y a, c'est une Liga qui a dès l'intérêt, qui reprend le 11, donc la semaine prochaine, donc quelques jours, et effectivement, elles reprennent, mais elles vont reprendre à huis clos. Attention, mais à huis clos, théoriquement, pourquoi? Parce que, pas plus tard qu'hier, donc il y a eu une réunion entre des représentants du gouvernement, le président du gouvernement, le secrétaire d'État au sport et le responsable de la santé espagnole, pas le ministre, qui était aussi là, mais l'équivalent du docteur Salomon en France, mais l'espagnol, avec les principaux clubs espagnols. Et on a laissé entendre, le gouvernement a laissé entendre que dans quelques semaines, à un moment où toute l'Espagne serait déconfinée, on pourrait peut-être effectivement jouer donc avec du public. Il faudrait déterminer combien, on parle de 30%, 30% uniquement de la capacité des stades.
Alors,
et voilà, c'est une piste qui est là. Mais ouais. Tu as fait référence à Barcelone et tu as tout à fait raison, parce qu'effectivement, Barcelone, c'est l'un des premiers clubs qui revendique de jouer avec du public, et c'est ce chiffre de 30% qui est avancé déjà par le FC Barcelone. Ce n'est pas le seul, parce qu'il y a Las Palmas qui a demandé aussi, Oviedo, aux Asturies, qui a demandé aussi à jouer avec du public, mais Barcelone va beaucoup plus loin, puisque va remettre un rapport qui a été établi par des autorités sanitaires pour proposer un projet où effectivement on pourrait réouvrir les stades dans la limite des 30% pour maintenir le distanciement social à l'intérieur du stade. Mais effectivement, aujourd'hui, en Espagne, la Liga n'est pas encore commencée, elle commence dans quelques jours, mais on se pose déjà la question si on pourra peut-être dans 3 semaines, voire 4 semaines, il faut savoir que c'est fin juillet que la Liga va terminer, et donc peut-être que les derniers matchs pourront se jouer avec du public. Pourquoi pas? C'est une piste à explorer.
Ça serait pas mal pour toi. On va voir pour Meshad. je le sens un peu dubitatif. Ouais. Meshad, dis-nous tout. Il est assez grand, le New Camp. Hein.
Moi, je trouve ça honteux.
Ouais. Et pourquoi?
Je trouve ça honteux parce que c'est la preuve que l'intérêt économique prend le pas sur beaucoup de choses. Et voir le plus important, c'est-à-dire la santé. On est d'accord que la seule raison qui pousse les clubs à vouloir faire en sorte que les supporters viennent au stade, c'est parce que ça coûte de l'argent, c'est de la billetterie, d'accord ? On est dans une situation qui est exceptionnelle. Je vais faire exprès d'extrapoler, d'être un petit peu trash, mais je préfère que il se soit à huis clos pendant 2 mois plutôt qu'il n'y ait plus de supporters l'année prochaine parce qu'il y aura eu des morts suite à une probable deuxième vague. Il faut quand même à un moment donné être raisonnable. Et arrêter de déconner avec ces conneries. On a 2 mois de huis clos. Je pense qu'on peut le faire. On peut regarder des matchs à la télé, à la rigueur en terrasse, mais réunir 80 000 supporters ou 30% de 80 000 supporters, c'est quand même honteux. Et j'espère.
Faut faire attention.
Dans le cas de Barcelone, ça serait 29 000 personnes autorisées à rentrer au stade.
29 000 personnes.
Bah oui, le 30% des pratiquement 100 000 personnes qui a ce stade.
C'est un scandale. On parle d'un virus juste. On parle d'un virus qui, aux États-Unis par exemple, a fait plus de mort que la guerre du Vietnam. Non, il faut quand même qu'on sache savoir de quoi on parle.
Bien sûr. Et je suis d'accord avec toi, justement. Achille, notre consultant, il n'a pas pu se déplacer en studio, mais on l'a au téléphone. Achille, comment ça va? Bonsoir, Achille.
Bonsoir, hola todos, que tal?
Ça va très bien. Ça va, les gars.
Ça va, Achille.
C'est Achille, justement, on va l'écouter, Achille. Réaction, Achille, peut-être un coup de gueule comme Meshad, Barça.
Bien sûr. Attends, Meshad a entièrement raison. Barcelone, ils ne font que ça. Pour une seule et unique raison, il y a un trou financier.
Aïe,
c'est tout. Il y a qu'un intérêt économique. Ouais. Après que le reste, encore que les petits clubs de type Las Palmas ou des clubs du bas de tableau qui revendiquent ce type, la reprise avec du public, je peux comprendre d'un point de vue économique, mais quand c'est Barcelone qui arrive déjà à peine à faire baisser les salaires de leurs joueurs de l'Institut Barcelone, donc c'est-à-dire que ce soit le football, le basket, handball et tout sport confondu, et bizarrement ils mènent la fronde pour pouvoir reprendre avec 30% soi-disant pour les distanciations sociales. Je prends les gens pour des imbéciles. C'est bon, à un moment donné, les Allemands, ils ont repris. Stade à huis clos, point barre, c'est tout.
Bien sûr. Et d'accord, avec Achille. On continue. Vas-y.
Très rapidement, ils n'avaient qu'à, comme ils ont l'habitude de faire des prêts bancaires. C'est ça, vu qu'ils ont toutes les banques catalanes.
Ah là là, Gilles. Il pique les Barcelonais. Allez, réaction avec Pontre C, on revient à Gilles.
Préciser deux choses. La première, c'est que c'est une piste qui pourrait être explorée. Et elle n'est pas en discussion actuellement. Elle pourrait être explorée. Deuxièmement, de la part des responsables sanitaires espagnols, ils ont dit tout simplement que si on ouvre les portes des stades même à 30%, il faudrait que ça soit pour toutes les équipes. Pour les 20 équipes de la Ligue espagnole. Pas que pour certaines équipes, d'autant plus qu'on sait quelle est l'importance du facteur terrain. Quand on est locaux, on est à l'extérieur. Donc, ça serait pas logique, effectivement, qu'il y ait des clubs qui puissent jouer à huis clos et d'autres qui puissent jouer avec les portes ouvertes. Donc, voilà. Donc, c'est juste une piste qui pourrait être explorée, mais je suis d'accord que peut-être faudrait-il, effectivement, pas s'avancer sur ce chemin aujourd'hui.
On termine avec Achille avant la pause.
On sait tous, l'importance et l'écoute qu'a M. Tebas vis-à-vis de ce club catalan qui est le FC Barcelone. On a pu le voir avec Neymar et compagnie autres. Donc si jamais, effectivement, soi-disant c'est à l'étude, je pense que M. Tebas il va bien écouter et il va très probablement militer. Et on espère que dans cette étude, il y a des gens plus ou moins sensés à la Fédération Espagnole de Football et même dans les instances politiques qui vont refuser. C'est pas possible.
Parce que là, c'est une décision politique. De toute façon, c'est une décision politique.
N'oublions pas aussi un paramètre extrêmement important. L'Espagne réouvre ses frontières pour relancer l'économie.
Pour le tourisme. Pour la Grèce et l'Italie.
Imaginez-vous, vous allez au stade, vous chopez le coronavirus et vous êtes en vacances.
Ouais, comme l'a dit Meshad,
il se passe quoi?
C'est un peu chaud.
On est reparti pour encore un autre retour et une autre épidémie mondiale. Il faut arrêter.
Achille, pour lui, il faut arrêter. Un grand merci à notre consultant qu'on retrouvera très vite sur l'antenne de Beurre FM. Achille. Et oui, encore merci. Et aussi les auditeurs de rester avec nous jusqu'à 20h, toujours de plus en plus nombreuses et nombreux. Restez donc bien cramponnés sur Beur FM. On va revenir pour parler de l'Olympique Lyonnais, sans oublier la NBA, de suite.
Time Sport revient dans un instant. Beur FM, 19h-20h, Time Sport, avec Bilal Nenman.
Et oui, de retour pour la dernière partie de Time Sport, 19h-20h sur l'antenne de Beur FM. Un petit clin d'œil à Anita et sans oublier aussi Marco, voilà, des petites dédicaces pour les auditrices et les auditeurs de Beur FM. Et nous, on va s'attarder sur Karl Toko Ekambi et l'Olympique Lyonnais.
Time Sport, le duel. Le duel.
Un duel assez fort. Jean-Michel Aulas d'un côté, toute la pléiade de joueurs, Karl Toko, qui signe pour 4 ans avec l'Olympique Lyonnais, Meshad Pandant, Que Aouar et aussi Dembélé, Depay, s'interroge sur leur avenir en terre rhodanienne. Qu'attendre de l'Olympique Lyonnais à l'avenir plutôt un peu flou ou incertaine, selon certains?
Incertain, moi je suis... Alors, oui et non. Il y a eu déjà beaucoup de changements depuis le confinement. Grégory Coupet, pardon, qui est parti, l'entraîneur des gardiens. Florian Maurice, le responsable du recrutement, qui est également parti, remplacé par Bruno Chéroux. Et après, sur les joueurs, Aouar, en instance de départ, lui souhaiterait rester. Mais après, effectivement, étant donné que la Ligue 1 est figée et que Lyon n'est pas en Ligue des Champions, l'équipe ne pourra pas conserver tous ses meilleurs éléments. Donc, je pense que c'est, effectivement, s'il y a une grosse offre, il sera amené à partir. Je l'espère pas, mais voilà, malheureusement, c'est un risque. Et Ekambi, je pense que c'est une anticipation d'un probable départ de Memphis Depay, moi, surtout,
ouais.
Parce qu'on sait que c'est un des joueurs qui a la plus grosse cote sur le marché et dans l'équipe. Et je pense que Ekambi est venu là vraiment dans un premier temps pour pallier à sa blessure, à Memphis Depay, dans un second temps pour le remplacer à l'issue du mercato. Moi, c'est mon avis. Et après, il a été très bon, hein, Ekambi, quand il a joué à Lyon, il s'est fondu dans le collectif. Moussa Dembélé, encore une fois.
Joueurs, Dembélé, Aouar.
Ça va dépendre des offres et de ce qui est capable de faire l'Olympique Lyonnais l'année prochaine. On sait que c'est un club qui a quand même beaucoup d'argent au vu des nombreuses ventes qui ont été faites les dernières années. Donc, ils peuvent conserver les joueurs. Maintenant, ça va dépendre des offres. Je pense pas que Lyon soit dans l'urgence de vendre. Mais encore une fois, étant donné qu'il n'y a pas de Ligue des Champions et que ça a des conséquences économiques, c'est un risque. C'est un risque.
Ouais. Les risques du côté de Lyon. Il est connaissant ce club, Meshad.
Première des choses, c'est que ça a été la cata totale cette année pour Lyon. Ils ratent complètement le début de saison. Et puis, on s'étape la pandémie. Et puis, maintenant, effectivement, il y a les blessures qui arrivent. Alors, quelle année se termine? Au plus vite pour Lyon. Et puis, il y a eu quand même ce dernier épisode des Aulas qui voulaient accrocher la Champions League coûte que coûte.
Ouais.
Même s'il
l'Europe,
fallait...
pas la Champions League.
Oui, mais l'Europe coûte que coûte. Hein. Mais voilà, c'était son idée. Espérons que ça se termine déjà cette année pour Lyon. Et Ekambi, écoutez, pourquoi pas? Alors, est-ce que quand même une arrivée à 15 millions vaut la peine?
C'est une super affaire. Un joueur à 15 millions d'euros,
d'autant plus qu'effectivement tout à fait d'accord avec toi, c'est un joueur qui a donné du dynamisme à cette équipe, qui fait pratiquement l'unanimité au sein du vestiaire. Je lisais des déclarations de Aouar qui disait le fait qu'il reste, ça veut dire peut-être effectivement on peut construire un joli projet. Donc ça pose peut-être le départ d'Aouar, mais il se laisse aimer, il dirait je serai prêt à rester. D'accord avec toi, comment ça va se passer pour Memphis Depay, comment ça va se passer pour Dembélé aussi, hein, parce que ils sont là, encore là. Mais le fait est aujourd'hui que Lyon est en très mauvaise posture parce que ils n'ont pas accroché l'Europe et c'est un manque à gagner. Ils ont de l'argent parce que la gestion des Aulas, effectivement, ces dernières années, on peut dire tout ce qu'on veut de lui, mais en tant que gestionnaire, c'est un bon gestionnaire.
Et il est là, il est présent.
Là. Et c'est pour ça qu'il est toujours là, de toute façon.
Ouais, on le rappelle, l'effectif professionnel de Lyon commencera bien le lundi 8 juin, la préparation de cette fin de saison, on le rappelle. Finale de la Coupe de la Ligue, tout de même, contre le Grand Paris Saint-Germain, de Neymar, Mbappé et Meshad.
Finale de la Coupe de la Ligue, on est toujours qualifié en Ligue des Champions. Hein.
Oui, face à la Juventus de Turin, la vieille dame italienne avec CR7.
Et c'est pas pour ça qu'ils vont
raconter. Qui sait, on sait jamais.
On sait pas, on
voilà.
On mettait pas une pièce sur
on y croit.
Oui. Non, mais si, d'accord.
ça va être très compliqué, mais on ne sait jamais. Mais
Yannis, il ne croit pas.
Je pense qu'il y a plus de chances de voir Memphis Depay partir, encore une fois, parce qu'en plus, lui, il a une vraie envie de partir, que de voir Aouar, qui est un enfant du club et qui aura probablement envie de d'aider son club à faire une belle saison l'année prochaine. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une révolution qui a été amenée par Jean-Michel Aulas et par l'intronisation de Juninho en début d'année. Et on voit que bah, ça suit avec, encore une fois, le départ des anciens comme Coupet, comme Florian Maurice, avec du sang neuf et, ouais. Et une nouvelle structure.
Ouais, et selon certains,
il y a quand même quelqu'un qui reste, qui est Bruno Guimaraes, qui ouais. est arrivé ouais. juste avant la pandémie. Exactement. Donc effectivement, qui est un joueur effectivement qui a peut-être de l'avenir dans ce club.
Ouais, tout comme Jouba et Abachil aussi avec ses petites infos voilà. football qui nous dit Dembélé seul joueur à avoir un bon de sortie, Méchad.
Dépendamment des offres, encore une fois. S'il y a une offre de 20 millions d'euros, il partira pas. Je vous le dis, c'est une offre à 60 millions. Oui, effectivement, ça va coûter cher.
Ouais. Justement, avant de terminer cette émission, on va aborder le cas de la NBA, la dernière rubrique.
Timesport, le mode pressing.
Eh oui, reprise de ce fameux championnat nord-américain face aussi à cette pandémie mondiale. NBA songe à reprendre fin juillet avant de désigner Méchad son champion le 12 octobre prochain. Dans ce contexte de pandémie aux États-Unis, et sachant que la NBA a été une des premières ligues à stopper sa saison pour ne pas prendre aucun risque, y a-t-il vraiment des chances que la saison aille à son terme ? Avec alors, tout ce qui se passe et la situation actuelle.
Alors moi je pense, les informations qu'on a d'ESPN, c'est que visiblement la NBA se jouerait, alors très étonnamment, à Disneyland, à Orlando.
Ouais, carrément. Ouais, c'est pas une blague, Yannis, ça, tu pourrais y aller aussi.
L'idée c'est qu'en fait, il y ait les clubs qui, enfin les franchises plutôt,
les franchises,
ouais. qui aillent dans cette fameuse bulle à Disneyland en compagnie des joueurs et donc de leur famille. Pour pouvoir jouer le restant de la saison, sauf que évidemment ouais. qu'il sera très compliqué de faire venir 15 franchises à l'est et 15 franchises à l'ouest. Donc l'idée ce serait de faire venir les clubs qui, enfin les franchises, je vais y arriver décidément, qui ont vraiment quelque chose à jouer et une qualification au play-off à jouer. Donc du coup ça réduirait drastiquement les équipes. On va dire que ce serait une ligue à 10-12 équipes, 12 franchises décidément en compétition pour ensuite aller en play-off et jouer les play-offs. Donc pourquoi pas, étant donné qu'encore une fois ils seront dans une bulle réduite. Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas, mais encore une fois il y a de l'argent et donc quand il y a de l'argent il y a des intérêts à défendre.
La NBA a besoin aussi, retrousser, de jouer environ 85 matchs de saison régulière pour valider son contrat avec, on le rappelle là aussi, c'est le business, les chaînes de télévision locales. La formule de reprise envisagée, on prévoit 88 tout de même.
Aïe. Mais je pense qu'ils vont aller jusqu'au bout, ben, tout simplement parce qu'il y a deux raisons ça importantes. Dans la première, vous l'avez déjà cité, effectivement, il y a un enjeu économique qui est énorme, donc il faut effectivement
NBA.
Et récupérer l'argent qu'on n'a pas encore touché des retransmissions, et puis n'est pas à rendre celles qu'on a déjà touchées pour des retransmissions qui n'auront pas lieu. Donc l'enjeu économique est énorme. C'est un lapsus qui est assez intéressant entre club et franchise. Et oui, c'est des franchises. Ouais, et donc c'est des entreprises, et que des entreprises. Il faut payer les salaires des employés, des employés, ça coûte des millions. Donc effectivement, c'est la première des raisons. Et puis il y a une deuxième raison qu'il faut jamais oublier.
Alors, c'est
laquelle ? C'est la raison tout simplement politique. Vous avez un Donald Trump qui était contre le confinement. Vous avez qui ne veut pas arrêter le pays. Et donc, si vous arrêtez la NBA, c'est quand même le symbole de cette Amérique, un des symboles de cette Amérique. Ouais. Ça serait un coup dur pour un président qui est en campagne électorale, qui a plus de 100 000 morts à cause du coronavirus et qui, au moins, donc, dès novembre, va devoir passer devant les urnes. Donc, à la raison économique, il y a une raison politique qui fait que les États-Unis vont aller jusqu'au bout et la NBA va se jouer. On va trouver toutes les façons qu'on veut de jouer, à Orlando ou ailleurs, peu importe, à 20 ou à 12, peu importe, mais il y aura des playoffs, et puis il y aura une finale, et puis il y aura un vainqueur de NBA.
Merci à Juan José Dorado de m'avoir accompagné avec Méchad ce soir. Et aussi merci à Mira Mentala, notre coordinatrice d'émission, le rédacteur en chef Jouba Houchen, et sans oublier la réalisation, la personne de Yannis Bouali. Rendez-vous dès demain, 19h, 20h sur l'antenne de Beurre FM, la suite des programmes. Et bonne soirée sur l'antenne de Beurre FM.
Retrouvez Timesport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.